I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, un média web féminin que j'ai lancé en 2005 et revendu et quitté durant l'été 2020 après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de 3 autres podcasts, Histoire de Daron où j'interview des pères sur leur paternité, Histoire de Mec où je fais parler des mecs, de masculinité et un dernier intitulé La Reco de Fab Flo qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Cette semaine, je reçois Patrick Béja, que je considère un peu comme le pape des podcasts et qui devrait d'ailleurs être considéré par un grand nombre de podcasteurs comme tel. Dites-vous qu'il a démarré son premier podcast en 2006 autour de l'univers des jeux vidéo et qu'aujourd'hui, en 2021, il arrive à en vivre en grande partie grâce au soutien financier de ses auditeurs. Comment en est-il arrivé là? Il m'a dit au tout début de l'interview « Accroche-toi Fabrice, j'ai un parcours éclectique » et effectivement, si son chemin est sinueux, vous verrez que brique par brique, il a fini par construire ce qui l'anime totalement aujourd'hui. Et je suis très heureux de vous présenter ce genre de vie multiple et doté d'expériences totalement différentes. Ça prouve bien que tous les chemins mènent à Rome, ou ailleurs, hein, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, un grand merci d'avance pour votre écoute et je vous laisse en compagnie de Patrick. On est avec Patrick Béja. Salut Patrick.
Salut, comment ça va Fabrice?
Ça va très bien. Patrick, merci beaucoup d'être dans mon podcast Histoire de succès. Pour les gens qui ne le savent pas, tu es déjà venu raconter les joies de la paternité de mon autre podcast.
les joies, vous entendez les guillemets? Oui, les joies de la paternité. Parce qu'il y a un moment, maintenant ça va mieux, je t'avoue. Il a presque 3 ans dans quelques jours, donc ça va mieux.
Je voulais te remercier encore pour ton témoignage parce que tu fais partie des rares darons à avoir vraiment expliquer le désarroi que tu pouvais avoir face à un enfant qui, dans sa première année notamment, avait eu beaucoup de mal à trouver le sommeil et vous avez un peu, bon, on va clairement dire, pourrir la vie, quoi. Hein. C'était très compliqué. Bah,
complètement. Et la preuve de la mémoire de poisson des parents, c'est qu'il y en a un deuxième qui arrive dans pas longtemps. Donc, on verra comment ça se passe et je pourrai revenir dans l'émission pour te raconter tout ça et voir si ça se passe d'une manière différente. Je sais pas ce qui nous a pris. Ouais. Mais dans 2 mois, ils seront 2.
Waouh. Bah écoute, on fera peut-être un épisode 2, tu vois, dans 2 ans, en disant « Alors Patrick
?» Bah, écoute, si jamais ça se passe bien, peut-être que ça vaudra la peine pour faire le contraste. Si c'est la même chose, je pense qu'on va éviter, ça va déprimer les gens.
En tout cas, merci beaucoup Patrick de venir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, dans la communauté des podcasteurs, parce que c'est aujourd'hui ton activité principale, enfin moi, je te perçois un petit peu comme le pape du podcast français, hein.
Alors, je sais pas si le pape, qui est sûr, oula, c'est vrai que je suis dans la communauté depuis très longtemps. J'ai commencé en 2006, à une époque où les gens ne savaient même pas ce qu'était un podcast et moi à peine. Donc, oui, je suis là depuis très longtemps, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai le privilège d'être là depuis si longtemps que les gens commencent à me connaître un petit peu dans cette petite communauté, c'est vrai.
Et surtout, c'est assez rare pour le souligner, mais c'est qu'aujourd'hui, ta production et ton activité est quasiment financée, je sais pas, intégralement, on en reparlera après, mais en tout cas, en grande majorité par tes auditeurs et tes auditrices, quoi, ce qui est génial.
Tout à fait, oui. Maintenant, j'ai ajouté de la publicité dans les émissions et il est possible, en fait, de choisir comment on va les écouter, soit avec de la publicité, soit en choisissant de les soutenir. Et du coup, il n'y a plus de publicité, on a des bonus, etc. C'est un petit peu la version prime des podcasts, ce qui est totalement optionnel. Mais oui, dans tous les cas, le soutien des auditeurs représente l'immense majorité de mes revenus et je vis entièrement de mon activité de podcast. podcast depuis maintenant 6-7 ans.
C'est classe, vraiment. Le mec faisait des podcasts avant que ce soit cool. S'il y a un livre,
Oui, je te confirme que c'était pas cool du tout. On te regardait étrangement quand tu disais que tu faisais des podcasts à l'époque.
On va rediscuter de tout ça après, mais revenir un petit peu sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à te lancer dans les podcasts et puis à pouvoir vivre de ton activité. T'as aussi une particularité dans ta vie, c'est que tu vis en Finlande au milieu des sapins et au bord d'un lac gelé, quoi. Donc vraiment.
Exactement, et peut-être qu'on parlera de la raison, on va faire un peu de teasing, la raison de ce choix de vie étrange. Je vis au milieu de la forêt finlandaise, effectivement, vraiment, quand je dis au milieu de la forêt, la boutique la plus proche est à 10 km, hein, et la maison la plus proche est à 2 km, et là, il neige beaucoup, ça va commencer à geler, donc c'est spécial, mais j'ai la fibre, donc tout va bien, il n'y a aucun problème.
Ça, c'est ouf, hein, vraiment, donc ça te permet de pouvoir... faire ton activité depuis ta cabane au fin fond de la Finlande, quoi. C'est fou.
Exactement, exactement. Et c'est un élément qui est important, hein. Ça a des conséquences même très, très larges sur les questions de re-ruralisation dont on parle un petit peu plus depuis la pandémie et le télétravail. Ça a mis en exergue à quel point cette connectivité peut redynamiser des régions qui ont été désertées. Et moi, j'y crois très fort à ça.
Bah, on en reparlera. Mais avant ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Patrick, quand tu avais 7-8 ans ?
Écoute, alors, j'espère me faire mentir dans l'épisode, mais j'ai une très mauvaise mémoire. Je vais essayer d'en... En fait, à 7-8 ans, je sais que j'habitais à Paris, en fait, à Neuilly, très précisément. Mais... j'ai eu une enfance peut-être un tout petit peu particulière parce que, en fait, je suis né au Liban et mes parents ont quitté le pays au moment de la guerre, au début de la guerre du Liban, donc dans les années 70. Et on est arrivé à Paris, en France, un petit peu déboussolé, pour dire le moins. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on a commencé à parler de la crise des migrants syriens, notamment, sans avoir été dans une situation aussi dramatique, loin s'en faut, ma famille, mes parents surtout, qui ont subi le poids de tout ça, étaient des réfugiés de guerre, et ils sont partis vraiment au début de la guerre du Liban avec leurs valises et rien d'autre, quoi, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient revenir naïvement. Alors, on a refait un passage par le Liban une ou deux fois, mais ils sont vraiment partis avec leurs valises. On est arrivé, ils se trouvent dans l'une des villes les plus riches de France, qui était Neuilly-sur-Seine. Nous, on n'était pas vraiment dans la même catégorie socio-professionnelle, mais du coup, j'étais un petit peu d'une certaine manière, un petit peu un poisson hors de l'eau. Je me suis très bien intégré, je pense, très vite. J'ai eu une enfance assez heureuse. J'ai pas du tout senti le poids des difficultés qu'avaient mes parents, et je leur suis extrêmement reconnaissant pour ça. Et Dieu sait qu'ils avaient de grosses difficultés. Mais du coup, moi, j'étais un peu inconscient de ce qui se passait autour de moi, et je pense que j'ai eu une enfance assez normale. La raison pour laquelle je parle de tous ces aspects plus difficiles, c'est que ça a forcément dû influencer quelque part inconsciemment la manière dont ça s'est passé. Mais mon impression, c'est que j'ai eu une enfance de Neuillien normal, tu vois, de Parisien Neuillien normal, avec des amis, l'école, vraiment, alors que derrière, il y avait tout ce passif, quoi.
J'essaie de remettre un peu la chronologie, mais t'es arrivé en France à quel âge alors ?
Alors, bon, c'était compliqué parce que, pour simplifier, j'avais à peu près 2-3 ans. Et puis, quelques années après, il y a eu une autre cassure parce qu'on est retourné au Liban pendant un an. Mes parents aimaient vraiment le Liban et c'est... Alors, je suis désolé de parler de sujets un petit peu politiques, mais ça me marque vraiment parce que mes parents, qui ont été contraints de venir en France, avaient pas envie de quitter le Liban. Ils étaient très heureux au Liban. Alors, ils faisaient aussi partie de peut-être d'une classe sociale au Liban qui était un petit peu plus privilégiée que certaines autres. Donc, mais ils avaient une vie qui était heureuse et agréable au Liban. Ils ont été vraiment déracinés. Et donc, ils ont voulu y retourner. Et c'est souvent ce à quoi je pense quand on me dit, ah, les migrants viennent pour chercher une vie meilleure ici, où ils ont envie de quitter leur pays. Je suis sûr que c'est le cas pour certains, mais je suis sûr que aussi pour de nombreux autres, ils n'ont pas du tout envie de quitter leur famille, leurs amis, leur pays, leur culture, tu vois. Donc, enfin bref, tout ça pour dire que ils ont voulu retourner au Liban. Ils ont essayé en 76 spécifiquement. On y a passé un an et la raison pour laquelle on est parti, finalement, pour de bon, c'est quand ma mère a trouvé une balle de, pas un ballon pour jouer, hein, une balle d'arme à feu, sur le balcon, quelques minutes ou quelques heures après que mon frère, qui est un petit frère de 2 ou 3 ans plus jeune que moi, soit rentré du balcon. Et donc, elle est ressortie pour chercher un truc, elle a trouvé une balle. Et donc là, elle s'est dit, ok, bon, terminé. Maintenant, on arrête de rigoler et on est revenu en France pour de bon, ou presque pour de bon, pour une bonne dizaine d'années. Pour te donner une idée, j'ai dû déménager dans ma vie une bonne trentaine de fois. Donc,
ah ouais.
C'était l'un des déménagements. On est revenu en France et on y est resté pour de bon cette fois-là. Ouais.
Donc, tu as grandi aussi dans une double culture.
Ouais, ce que je ressentais pas vraiment. En fait, mais c'était des choses subtiles, tu sais, comme le fait, par exemple, que je ne sais pas si c'était exactement dû à la culture, mais dans ma famille, on buvait pas vraiment d'alcool. Il y a 2 choses dont je me souviens, en fait, de mon enfance et de cette différence de culture. Je te dis, j'étais très bien intégré, je pense, pour 95% des choses, mais on buvait pas d'alcool et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que le vin était je parle pas de gens qui se bourrent la gueule tout le temps, hein, mais simplement le fait de boire du vin était une chose très française que moi je n'avais pas. C'est l'une des choses dont je me suis rendu compte. Et du coup, je buvais pas de vin, même plus âgé. Évidemment, quand j'étais très jeune, non, mais je veux dire, même plus âgé, j'avais pas cette culture du vin. Pas vraiment de culture du fromage non plus, par exemple. Tu vois, c'est des choses que j'ai vraiment découvert adulte. Parce qu'à la maison, il y avait, bon, bah, je sais pas, de la vache qui rit et des Babybel, tu vois. Mais c'est pas vraiment une vraie culture du fromage. Et l'autre chose, au-delà de la question de la bouffe, qui fait partie de la culture française, c'était une question d'hospitalité aussi. Mes parents avaient ces habitudes très moyen-orientales où, bah, quand tu venais quand tu avais des amis qui étaient à la maison, c'était, ah bah vas-y, viens, on peut... Enfin, si tu veux rester pour le dîner, il n'y a pas de souci, on met une assiette en plus sur la table. Et je me souviens que adolescent, peut-être au moment du collège ou du lycée, quand j'allais chez des amis, peut-être pas tous, mais certains me faisaient bien sentir que l'heure du dîner approchant, bah fallait que je rentre chez moi, tu vois. Et c'était pas du tout. Alors c'était ni y avait pas de choc ni de ressenti négatif, tu vois. C'était juste une différence. Et c'était ah bon, ok, bon bah il faut rentrer à la maison. Et c'est c'est à ce genre de niveau que la double culture s'exprimait, en fait.
Je vois. comment se passe ta scolarité, ton adolescence, ça se passe bien dans ta vie?
Ouais, bah écoute, comme je parlais d'intégration, en fait, mes parents étaient francophones, ils parlent arabe et anglais également, mais à la maison, ils étaient francophones, donc à ce niveau, il n'y a pas eu de gros soucis, ni pour mon intégration, ni pour l'intégration des parents. Encore que, c'est marrant, excuse-moi, je fais des digressions, mais vers mes 18 ans, je crois, je parlais avec ma mère, et elle me disait qu'elle avait eu des discussions avec l'administration, je ne sais plus de quelle administration elle parlait, mais elle disait, oui, donc je les ai appelés, ils m'ont dit ci et ça, et puis tu sais, quand ils ont entendu mon accent, ils ont dit, je ne sais plus si c'était une remarque, ou ils demandaient d'où elle venait, ou je ne sais pas quoi. Et je la regarde, j'avais 18 ans, hein, je la regarde et je lui dis, mais ton accent, mais quel accent? De quel accent tu parles? Et elle me dit, bah mon accent, j'ai un accent. Et je me suis rendu compte à 18 ans qu'elle avait effectivement, enfin évidemment, un accent, quoi. Et c'était marrant parce que j'en étais pas du tout rendu compte avant. C'était juste la manière dont ma mère parlait et je pensais, enfin bon, bref. Et ça explique peut-être un petit peu la manière dont mon enfance s'est passée, il y a eu cette dualité dont je me rendais pas compte, en fait. Ceci dit, on est retourné au Liban encore une fois quand j'avais à peu près 12 ans à peu près. On a passé un an à Chypre et un an au Liban, pour diverses raisons. Et donc, j'ai eu une cassure dans mon adolescence, là encore, parce que j'ai été sorti de mon environnement. J'ai perdu mes amis, en quelque sorte. Je ne me suis pas du tout adapté à ces autres pays. C'est pour ça aussi que je me sens, je disais moyen-oriental, mais en fait, je ne me sens pas vraiment moyen-oriental, parce que quand j'y suis allé au début de l'adolescence, j'étais pas du tout en phase avec la manière dont les gens vivaient et pensaient là-bas. Et quand je suis revenu en France, c'était une libération, mais j'étais du coup à nouveau un petit peu pas l'étranger, mais j'avais pas suivi le parcours. 2 ans quand t'as 13 ans, c'est beaucoup, quoi. Surtout que c'est une période à laquelle tu changes beaucoup. Et donc j'étais un peu le gamin un peu différent qui était pas hyper populaire. Ça m'a pris 2-3 ans, pas pour redevenir populaire, mais simplement pour me refaire des amis, pour retrouver des gens avec qui j'étais à l'aise. Et j'ai eu un moment où j'étais vraiment le geek de service, où j'étais... Disons que ça m'a formé le caractère, on va dire. J'ai appris à encaisser la... C'était pas méchant, hein, c'était pas violent. On parle pas de séries américaines où les bullies me tapent dessus non plus. Mais c'est juste que j'étais pas très populaire. Donc ça a marqué le début de mon adolescence, ça aussi.
Ok, bah c'est intéressant parce que tu es en train de... C'est la première fois que tu l'évoques, mais tu es en train de faire le pont entre ta passion pour la tech et les jeux vidéo, et puis qui t'anime aujourd'hui à travers tes émissions. Et en fait, ton adolescence, ça te... Alors, Patrick, c'est pas... t'as un certain âge, hein. et à l'époque, les geeks n'étaient pas cool.
Non, je le percevais pas, même pas vraiment comme ça, en fait. Mais cette passion pour la technologie et les jeux vidéo est venue très 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 jeune, en fait. Je me souviens que mon cousin, dont les parents étaient beaucoup mieux lotis que moi, avait eu à l'époque de la sortie de l'Apple 2, un Apple 2C, qui était un ordinateur, un vrai ordinateur, et ça coûtait très très cher. Et moi j'étais absolument fasciné, j'avais demandé à mes parents s'ils pouvaient nous acheter pour le Noël suivant un Apple, et ils s'étaient... Ils pouvaient pas se le permettre. Par contre, ils avaient réussi à trouver une console Atari VCS 2600. Et pour moi, je faisais pas la différence.
Une des toutes premières consoles, quoi, c'est ça?
Voilà, une des toutes premières consoles. On parle des années 80, là, début des années 80. Et donc, j'avais, je sais pas, 10 ans, quelque chose comme ça. Et pour moi, je faisais pas la différence entre un Apple et un... Une console, elle devait coûter, je sais pas, 500, 1000 francs. Un Apple IIc, c'était 10 000 francs, tu vois. Donc, si on convertit en euros, plus ou moins, ça devrait correspondre. C'était... Bon, pas exactement, mais c'était hors de prix, un ordinateur. Mais moi, je faisais pas la différence. C'était un truc pour jouer à des jeux vidéo à la maison. J'étais fou de joie. Et il se trouve que mon père travaillait à l'époque dans une société d'importation de machines d'arcade. Donc il importait des machines d'arcade du Japon, enfin il faisait partie de cette grosse boîte, lui il était pas du tout jeu vidéo, mais il pouvait nous emmener au dépôt, à la salle de démonstration, en fait, où il y avait des dizaines de machines d'arcade. Et je me souviens en particulier, une fois il nous y a emmené, et dans mon souvenir on y a passé la nuit. Je devais avoir 11 ans, donc je pense pas qu'on y a passé la nuit, mais dans mon souvenir on y a passé la nuit. Et mais c'était de la... Parce que toutes les machines étaient ouvertes, tu pouvais juste cliquer sur le truc pour ajouter des crédits, et il y en avait, mais des dizaines. Et c'est donc un petit peu de là qu'est venu, je pense, cet amour, mais j'avais autour de 10 ans, et ça commençait à peine. Donc j'y suis arrivé dès les tout premiers, dès les débuts. Et je me souviens de mes fantasmes quand j'avais encore une dizaine d'années. Je me souviens que j'avais vu dans une librairie un ordinateur, ça devait être un MO5 à l'époque, qui était l'un des tout premiers ordinateurs personnels, avec les touches en caoutchouc qui restaient accrochées aux doigts, tu sais. Et ils avaient des lecteurs de cassettes qui prenaient très longtemps à charger les programmes. Et je me souviens que je m'imaginais à la maison avec un MO5, lancer la lecture d'un programme avec le lecteur de cassette pendant que j'allais me préparer quelque chose à manger. C'est précis, hein. Pendant que j'allais me préparer quelque chose à manger, et puis je reviendrais à côté de l'ordinateur et le jeu ou ce que c'est aurait chargé, et donc je pourrais y jouer avec la bouffe à côté. C'était vraiment quelque chose de fort dans ma psyché. J'avais un fantasme de tous ces trucs-là depuis très très jeune.
Ce qui était le cas d'ailleurs, c'est-à-dire que, enfin, moi j'avais un pote qui avait un Amstrad CPC 464, on lançait un jeu et on allait se faire un goûter.
Écoute, moi il se trouve que j'ai eu un ou deux ans après, à l'époque c'était une éternité, mais j'ai eu un Amstrad CPC 664 qui était la même version mais avec un lecteur de disquette. C'était le 464 avec un lecteur de disquette. Il n'était pas aussi puissant que 6128. Mais il avait un lecteur de disquette. Et du coup, c'était juste avant qu'on parte à Chypre, au début des années 80, peut-être 85. Et donc, c'était, pour mon frère et moi, c'était notre compagnon, cet ordinateur, parce qu'on était très seuls à Chypre, on n'avait pas vraiment d'amis, il y avait rien à faire. À l'époque, Chypre, c'était vraiment une station balnéaire en été. Et le désert en hiver. Et comme on y a passé un an, encore une fois, un an c'est long pour un enfant. On a regardé des films anglais en anglais sans sous-titres que ma mère nous expliquait en faisant pause toutes les quelques minutes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et on jouait beaucoup sur l'ordinateur. Et c'était salvateur. Ça a sans doute joué pour mon amour de ces machines aussi.
Et donc quand tu reviens, t'es au lycée, c'est ça, tu disais?
Le tout début du lycée, je suis revenu, j'ai commencé ma seconde, que j'ai allègrement redoublée d'ailleurs. C'était, ouais, 86-87.
Et pour le coup, bah, effectivement, les nerds étaient moins populaires qu'aujourd'hui, quoi.
Ouais, mais en même temps... L'écart,
t'avais réussi à trouver des potes
Bah ouais, on était un petit peu les misfits. Tous les gens qui étaient pas populaires, bah, on s'est retrouvés ensemble et nous, on était très contents, hein. On avait nos ordinateurs. Mon père, en fait, était vraiment... comment dire ? On va partir un petit peu dans la psychologie, mais j'ai l'impression qu'il exprimait une partie de son amour. Il était très, très expressif, mais il l'exprimait aussi en faisant des cadeaux. Et il avait un petit peu cette envie de montrer au monde qu'il était, qu'il réussissait, même quand c'était pas le cas. Et puis, on a eu quelques années où son... Son travail fonctionnait pas mal et il nous avait acheté par exemple un Amiga 500 et qui était là pour le coup une machine, enfin pas aussi chère qu'à l'époque des Apple, mais là c'était un beau cadeau. Et voilà, moi j'avais des amis, alors à Neuilly comme tu t'en doutes c'était plus facile de trouver des gens qui avaient ce genre d'appareil, même si bon c'était beaucoup plus commun dans ces années-là. Et puis on était avec des amis qui aimaient ce genre de choses, mais c'était surtout les gens qui étaient pas très populaires, et on s'est formé notre petit groupe et on est devenu un petit peu nos propres j'exagère peut-être un peu en disant qu'on n'était pas populaire. La première année, moi, j'étais peut-être pas très populaire et je me suis fait des potes qui l'étaient pas non plus. Et puis bon, comme je le dis, c'est pas les États-Unis non plus, on n'a pas ces cliques rigides, ou en tout cas on les avait pas à l'époque, et donc c'était juste les amis qui s'amusaient ensemble, et on n'était pas pointé du doigt et moqué, c'est juste que j'étais pas adapté la première année, j'avais pas les mêmes références culturelles, j'avais pas la même maturité peut-être intellectuelle ou émotionnelle, et ça a pris un moment à s'adapter. Mais oui, c'est à ce moment que je me suis fait mes amis qui tous avaient un petit défaut, peut-être pas un défaut, mais excuse-moi, une petite différence, on va dire, dans leur parcours. Et on s'est trouvé, et je me suis jamais senti super malheureux. Peut-être un petit peu de blues comme tous les enfants à l'adolescence, mais je pourrais pas dire que j'ai eu une enfance ou une adolescence vraiment malheureuse malgré toutes ces choses qui se sont passées.
Et hop, petite pause auto-promo dans cette interview. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview.
Est-ce que tu cultivais aussi un amour pour les magazines de jeux vidéo ou de PC?
Ah bah oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, comme tous les enfants, j'avais tous les Marvel et les Strange que je lisais assidûment, tu vois. Et puis les BD, mais les magazines, oui, bien sûr. Je lisais Tilt, Gen 4, Console Plus. Et il se trouve que plus tard dans ma vie, j'ai travaillé pour ces magazines. Donc, c'était un petit peu mon achievement personnel quand j'étais un jeune adulte. Ouais.
Comment ça se passe justement la fin de ton lycée, le début de tes études?
Alors, là encore, il y a un événement important. À la fin de ma dernière année de lycée, enfin non, au milieu de ma dernière année de lycée, quelques jours avant Noël, l'année d'après mon redoublement de seconde, à la grande surprise de tous mes amis, mon père, qui avait parfaitement accepté mon redoublement, alors qu'il était généralement un petit peu impulsif, mais il avait la voix qui montait assez vite, tu vois, il n'était pas colérique, mais il avait tendance à s'énerver. Et ben quand j'ai redoublé, il a dit bon bah écoute, si c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas la fin du monde. Si tes professeurs estiment que c'est nécessaire pour toi pour que ça se passe bien, eh ben voilà, c'est ce qui va se passer, c'est pas la fin du monde. D'ailleurs, la deuxième seconde s'est super bien passée, j'avais 18 de moyenne en physique et en maths, c'était génial, alors que j'avais 2 les années précédentes, bref. Et donc, il m'a offert un scooter l'année d'après. Et mes amis se disaient, mais c'était encore dans la courte période où les choses allaient bien au niveau business, tu vois, pour lui. Mais mes amis se sont dit, mais enfin, il a compris que t'as redoublé ton père ou comment ça s'est passé, tu. Bon, bref. Un an plus tard, ou 2 ans plus tard, il se trouve que j'ai eu un accident de scooter assez grave. Milieu de l'année de seconde avec ce fameux scooter que mon père m'avait offert. Et milieu de l'année de terminale, plutôt, juste avant Noël, accident assez grave, hôpital. Et d'ailleurs, sur ce scooter était également le fameux cousin dont je te parlais tout à l'heure. On était très, très proches dans notre adolescence. Et on a eu tous les deux 6 mois d'hôpital et de rééducation, multiples fractures. Enfin, c'était vraiment le cauchemar de n'importe quel parent. Tu reçois le coup de fil un jour. Madame, votre enfant était dans un accident, il est à l'hôpital, on peut pas vous dire ce qui se passe, venez. Et c'était sérieux, je suis resté sur le billard pendant 9 heures, j'avais fracture du bassin, fracture de tous les os de la jambe, enfin bon, bref. Et donc, tout ça pour dire que ça a complètement, enfin, ça a évidemment affecté la trajectoire de mes études. Je savais pas trop ce que je voulais faire déjà dans mon année terminale. Et du coup, avec tout ça, le choix de mon parcours, de mon université a été affecté parce que je savais même pas si j'allais avoir mon bac, tu vois, avec 6 mois d'hôpital au milieu de l'année. Bon, il se trouve que, étant donné que mon super pouvoir d'intelligence supérieure a pris le dessus, j'ai eu mon bac. J'ai eu 10,5 de moyenne, je crois, mais bon, je pense que j'aurais eu 10,5 de moyenne quoi qu'il arrive, parce que je faisais toujours juste ce qu'il fallait pour passer. Mais là, comme j'avais passé 6 mois à l'hosto, c'est genre, ah bah quand même, bravo Patrick, t'as eu ton bac, c'est très bien. C'est genre, ouais, bien sûr. mais donc je l'ai eu et j'ai dû choisir ce que j'allais faire. Et comme j'aimais l'informatique, comme tu l'as compris, j'ai dit, bon, bah, je vais étudier l'informatique. Je me suis inscrit à un DUT d'informatique. J'ai été pris, un IUT, pardon. Et je vais l'année d'après à cet IUT. Et là, catastrophe, je déteste ça. Mais je déteste. C'était horrible. Enfin bref, j'ai pas aimé ces études.
Pourquoi t'aimes pas? Parce que c'est de la programmation, c'est du dev et c'est pas ça qui t'intéresse dans l'informatique, c'est ça?
En fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas. Ouais, non, mais c'est ça. J'aimais pas programmer. J'aimais pas me mettre dans l'esprit. En fait, il fallait comprendre comment fonctionnait l'ordinateur. Tu passais 2 heures à écrire ton code et le reste de la journée à comprendre pourquoi il marchait pas. Et il fallait te rentrer dans la logique de l'informatique, de l'ordinateur, et j'aimais pas ça. Donc, en plus, il y avait des cours de compta aussi, et la compta, j'ai jamais compris. Donc, Et puis, il y avait peut-être un petit peu de psychologique également. Hein. J'avais passé 6 mois à l'hosto. C'était un IUT qui était loin de la maison. J'avais même eu une place en résidence universitaire. Et là où ça aurait dû être, je suis indépendant, loin de la maison, il y a plein de gens, il y a plein de jeunes, il y a des filles, tu vois, on a chacun notre chambre, peut-être qu'il y aurait moyen de faire des trucs. En fait, non, j'étais pas du tout dans cet esprit. Moi, je voulais rester à la maison, je voulais rester avec ma maman et mon papa, tu vois, j'avais 18 ans et pourtant, c'était pas du tout. Je pense que j'ai mis un plus de temps que les autres à atteindre une certaine maturité émotionnelle. Et j'étais pas du tout à l'aise dans cet environnement, donc peut-être que ça a joué aussi. J'ai quitté la résidence universitaire alors que les places étaient hyper dures à avoir, enfin tu vois, et j'avais 2 heures de transport tous les jours, et je préférais ça. Enfin bon, bref. Et donc, j'ai pas du tout aimé, et je me suis quand même forcé à finir ces 2 ans. J'ai eu mon diplôme, et puis je me suis dit, je vais faire autre chose. Parce que là, ça suffit ces conneries. À ce stade-là, j'avais 20 ans. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose juste pour le fun, parce que j'ai envie. Et autre aspect de ma vie qu'on n'avait pas évoqué, j'étais très, très fan, comme beaucoup de gens de ma génération, des dessins animés japonais et des mangas. Et je faisais partie de ces gens qui étaient... sur la première vague de la popularisation de l'animation japonaise et de la BD japonaise en France.
Merci Dorothée.
Évidemment, exactement, poussé par le club Dorothée et les dessins animés qui étaient censurés parce qu'ils étaient vraiment pas faits pour les enfants, les Ken le survivant, les Dragon Ball évidemment, les Chevaliers du Zodiaque, tout ça. Et donc je passais mes samedis à faire la queue à Tonkam, toutes ces librairies. On achetait les BD du Japon en japonais auxquels on comprenait rien. Et donc, une fois que j'ai fini le DUT, je me suis dit, je vais faire un truc pour moi et je me suis inscrit. Alors, c'était complètement improbable. Je me suis inscrit aux langues orientales, en japonais. Et donc, je me suis mis à étudier le japonais, la culture japonaise. Comme tu l'as bien compris, jusque-là, j'étais un informaticien, j'étais un scientifique. Et donc là, j'ai basculé vers les langues et j'ai étudié le japonais pendant 4 ans à l'université. J'étais parti pour en faire 1 an et je me suis dit, je continue, ça me plaît. Et peut-être que c'est parce que j'étais un petit peu plus âgé que les nouveaux qui arrivaient, aux Langzo, parce qu'ils venaient après leur bac à 18 ans, donc, et moi j'en avais 20, et j'étais beaucoup plus à l'aise. J'étais pas cool, hein. J'étais très loin d'être cool encore, ça vient plus tard, ça. Maintenant je suis très cool, mais j'étais pas cool à l'époque. Et la coolitude, il y a toute une histoire aussi là-dessus, si tu veux, on pourra en parler, mais c'est vers la trentaine. Mais ça, j'étais beaucoup plus à l'aise, j'avais des amis qui me ressemblaient un petit peu plus et c'était vraiment sympa. Donc, j'y ai passé 4 ans. Et après ça, à quoi ça sert d'étudier le japonais, sincèrement? À rien! Ça sert strictement à rien. Alors, tu peux être guide, tu peux être prof, mais enfin, c'est pas des métiers vraiment que... Tu sais, les mamans juives qui veulent que leurs enfants soient avocats ou médecins. Alors ma mère n'est pas juive, mais les Moyen-Orientaux, ils sont tous un petit peu juifs quelque part. Quand tu leur dis j'étudie le japonais, c'est pas leur rêve, quoi. Et à la fin de mes études de japonais, j'y ai passé à peu près 4 ans. Je me suis dit maintenant je fais quoi? Je vais au Japon, bien sûr. Alors je vais faire quoi au Japon? Alors, je dis à ma mère, écoute, maman, j'ai envie d'aller au Japon. Ok, d'accord. Là, j'étais plus âgé, hein, j'avais 25 ans, 24 ans. Je pouvais faire ce que je voulais. Elle m'a dit, mais tu vas faire quoi? Et moi, je lui dis, je sais pas trop. Mes amis, ils y allaient de temps en temps, tu vois, et puis ils y allaient sur un visa touriste. Et puis ils ressortaient tous les 3 mois, et puis ils revenaient. C'était avant le 11 septembre. Ça posait aucun problème de faire ce genre de choses. Et je dis, je sais pas, je vais voir, j'irai, et puis au pire, je vais sur un visa de touriste, je trouve un endroit où... Et ma mère me voit vivre sous les ponts au Japon, tu vois, Il se trouve que finalement, heureusement, j'ai trouvé un boulot de prof de français pour une boîte qui s'appelle Nova, qui donnait des cours de conversation. C'est un petit peu le McDo de l'éducation, Nova, mais c'était un visa, un boulot, un salaire garanti. Et du coup, c'est comme ça que je suis parti au Japon vers, enfin, en 99. Et j'y ai passé 4 ans.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Au Japon.
À faire prof.
Je suis arrivé le premier jour de ma formation, je me suis dit, putain, je vais détester ce boulot. Eh ben, tu devineras jamais ce qui s'est passé. J'ai détesté ce boulot. Mais j'ai détesté comme c'est pas, c'était vraiment pas un truc pour moi. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de, je m'en rends compte, il y a pas mal de fois où j'ai dit c'était vraiment pas pour moi, hein, depuis le début. Et vraiment, ce boulot, c'était pas pour moi. Mais j'étais au Japon, et ça me permettait d'y être, et d'être à l'aise là-bas. Et au-delà du fait que j'ai un petit peu vécu mon amour et processer mon amour du Japon pendant cette période, j'ai aussi fait un gros travail sans m'en rendre compte sur moi-même, et donc c'était très très utile d'être sorti de mon environnement encore une fois pendant ces quelques années.
Ok, quand tu reviens, que se passe-t-il dans ta vie? Est-ce que tu décides de faire un travail que tu vas aimer enfin?
Écoute,
C'est quoi le process qui t'amène à te dire bon, ok, en fait, c'était cool d'être au Japon, mais en même temps, bah, tu passais, j'imagine, 7-8 heures par jour à faire une activité que tu détestais. C'est quand même peut-être pas si cool que ça, quoi, finalement.
Écoute, c'était compliqué. Le Japon, c'est vraiment j'ai une relation très ambivalente avec le Japon. Il y a des choses que j'adore et des choses que je déteste. Vraiment. Hein. C'est un pays qui est très compliqué, enfin, qui l'était en tout cas il y a 20 ans. Et donc, au bout de 4 ans, j'ai décidé que ça suffisait et que je voulais rentrer chez moi. Et aujourd'hui, je rêve d'aller au Japon, mais j'aime y aller un peu plus en connaissance de cause, peut-être. Enfin, j'y vais régulièrement, j'y vais de temps en temps. L'année dernière, au début de la pandémie, on était censé, avec ma femme, aller passer une semaine, 10 jours au Japon, parce qu'avec le fils, on peut pas le laisser trop longtemps, mais une dizaine de jours au Japon. Et dans l'aéroport, pendant qu'on était en train de faire la queue pour la sécurité, on apprend que son boulot dit qu'il faut une quarantaine après un passage au Japon, c'était en février, et le Japon annonce que l'épidémie est présente chez eux. De manière, il y avait l'histoire du bateau, tu te souviens, du navire de croisière qui était quaranténisé, bah, que en fait l'épidémie était sortie chez eux. Et dans la queue, on se demandait est-ce qu'on va y aller quand même ou pas finalement. Après avoir passé la sécurité, on a décidé d'annuler le voyage parce qu'on voulait pas prendre le risque d'être en quarantaine au retour avec le fils qui nous attendait. Et donc, j'ai encore une relation très très proche avec le Japon. Mais à ce moment-là, je me disais ça suffit. Et en fait, quand je te disais le travail que j'ai fait sur moi dans ce pays, c'est que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'être un scientifique. J'avais pas cette identité, les rails sur lesquels je m'étais mis dans cette image que je m'étais fait de moi n'était pas quelque chose qui était écrit dans les étoiles ou dans le marbre, tu vois. Et je te passe les détails, mais du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh ben, en plus de l'informatique du Japon que j'avais écumé et dans lesquels j'avais pas trouvé mon bonheur, j'aimais beaucoup le cinéma. Et donc, je me suis dit, je vais faire du cinéma. C'est logique. J'ai fait des études d'informatique. J'ai passé 4 ans au Japon. Donc, je vais faire du cinéma. C'est parfaitement normal. Et donc, je suis revenu en France. Je suis retourné habiter chez mes parents. Et j'ai commencé à chercher à travailler dans le cinéma. Alors, comment ça marche? Aucune idée. Il se trouve que, par chance, j'avais un lointain cousin qui était réalisateur, qui s'appelle Arthur Joffé, qui n'avait pas fait de film depuis très longtemps. et pour lequel, avec lequel j'ai commencé à travailler en tant que, qu'assistant, tu vois, j'ai travaillé avec lui. Et par chance, quelques mois, peut-être un an après qu'on ait commencé à travailler ensemble, il a signé un nouveau film chez les Films du Losange. Et j'ai travaillé en tant que stagiaire, enfin assistant réa stagiaire, sur ce film, ça m'a fait quelques contacts, et de là, j'ai encore passé, on va dire, cinq, six ans dans le monde du cinéma et de la télévision. Donc, j'ai commencé tout en bas de l'échelle, et puis j'ai monté petit à petit, et puis j'ai fait de la prod et de l'assistanat de réalisation dans ce monde-là, en partie en rapport avec le Japon, puisque il se trouve qu'il y a des sociétés en France, des sociétés de production qui travaillent pour des annonceurs japonais qui veulent filmer des publicités, notamment en France, et qui donc qui s'occupent de la production en France pour ces sociétés-là. Et j'ai travaillé avec eux en tant qu'assistant, qu'intermittent du spectacle. Pendant plusieurs années, j'ai été intermittent du spectacle.
Ah ouais, donc t'as quel âge ? Tu dois avoir 30 ans, alors, c'est ça, quand...
Je suis parti au Japon vers 25, je suis revenu vers 29, et jusqu'à... Bah ouais, ça devait être 35, 36. J'étais intermittent du spectacle. Donc de 30 à 36, ouais.
À peu près. Tu me disais juste avant qu'on démarre que tu avais un parcours sinueux, mais alors vraiment, je ne pensais pas à ce point-là. Et c'est ouf parce que j'ai un peu l'impression que même quand tu fais des trucs qui te plaisent pas, tu vois, tu t'abandonnes pas. Tu te dis pas, OK, j'ai fait un an et puis j'ai fait autre chose. À chaque fois, c'est des périodes de 2, 3, 4 ans, quoi. C'est. Le mec est tenace.
Ouais, c'est des. Bah ouais, parce que souvent, il y a quelque chose d'autre que j'apprécie dans ces. Enfin, c'est en particulier pour le Japon. Il y avait vraiment le fait d'être au Japon qui était un grand bonheur pour moi. Et puis, au-delà du fait que c'était la culture japonaise, parce qu'au Langzo, ça va plus loin que la langue. Hein. Il y a vraiment la culture, l'histoire, la philosophie presque du pays, la société, t'apprends beaucoup de choses. Et puis découvrir le pays, c'était quelque chose qui était... J'ai toujours, évidemment, tu t'en doutes avec mon historique, j'ai toujours été conscient de la différence entre les différentes cultures, mais le Japon, c'est vraiment autre chose. Et on se rend compte... des choses différentes qui peuvent exister quand on découvre ce pays qui n'a évolué, enfin c'est, il y en a d'autres, hein, j'en suis sûr, mais dans mon cas c'était le Japon, qui a vraiment évolué très très loin du tronc commun judéo-chrétien qu'on a nous dans tout le monde occidental, et donc c'était quelque chose, une révélation. Et en plus de ça, ils avaient plein de machines d'arcade, et c'est le pays du jeu vidéo, le Japon, tu vois, donc c'était la grande période des jeux de combat. Moi je passais mes journées dans les salles d'arcade quand j'étais pas en train d'enseigner, donc c'était quelque chose de particulier, et donc il y avait vraiment un point très positif, un aspect très positif là-dedans. Et puis le cinéma, c'était pas les vacances, parce que j'aimais ce que je faisais, mais les intermittents du spectacle te le diront, il y a souvent, pour beaucoup d'entre nous, des périodes de travail intense et puis des périodes plus calmes qui me permettaient de me détendre beaucoup. Et puis, il y avait des périodes de boulot très, très intense. Et puis, c'est là que je suis arrivé à la période cool, où je suis devenu cool. En fait, j'ai rencontré, par des amis et d'amis, des expats de plein de pays. Un groupe, en fait, d'expats qui venaient des États-Unis, d'Australie, d'Allemagne, enfin vraiment de partout, d'Argentine, des expats. Et j'ai commencé à découvrir l'Est de Paris, en fait. L'Est et le Nord de Paris, tu vois. Moi, j'ai grandi à Neuilly, j'étais au ciné sur les Champs, j'allais pas vraiment beaucoup au hall, tu vois, c'était pas ma zone de prédilection. Et vers 30 ans, avec les intermittents du spectacle, les bons gauchistes, tu vois, les gens qui changeaient un petit peu de mes gosses de riches de Neuilly, que j'aime beaucoup, qui sont encore mes amis, tu vois, mais c'était vraiment, quand on parle de confrontation de points de vue différents, c'est un truc qui m'a accompagné depuis très longtemps. Et donc, j'ai commencé à fréquenter ces endroits et j'allais dans les bars que j'avais jamais fréquentés du nord de Paris, de Pigalle, de Barbès, tu vois, tout ça. Et moi, qui n'étais pas cool, j'ai rencontré plein d'autres gens que je ne connaissais pas, tous ces expats, dont je me suis rendu compte au bout de quelques années que eux n'étaient pas cool du tout non plus. Mais entre nous, tout le monde se donnait l'air d'être cool et tout le monde pensait que les autres étaient cool. Et donc, entre nous, on était tous très cool. Et à partir de là, c'est là que vraiment je me suis, j'avais atteint une certaine maturité peut-être émotionnelle et psychologique et physique. Et tu vois, je vais t'expliquer à quel point c'était une vraie maturité émotionnelle. Là, j'ai commencé à rencontrer des filles, tu vois. C'était vers mes 30 ans. Alors, j'étais pas vierge à 30 ans, hein, mais j'étais pas quelqu'un qui avait une vie un petit peu... J'ai commencé à sortir, à pas à boire, parce que je bois pas beaucoup, mais un petit peu, et puis à rencontrer des gens. Et puis, j'ai eu quelques one-night stands, tu vois, j'ai eu des histoires un petit peu plus longues. Et c'était... J'étais plus à l'aise dans ma peau. Et donc, forcément, j'étais plus à l'aise avec les autres aussi. Donc, ça a mené à une période de quelques années où les choses se passaient de manière... C'était pas la folie de la fête tout le temps, mais oui, c'était ce que vivent, je pense, la plupart des gens dans leur vingtaine. Moi, je l'ai vécu dans la première moitié de ma trentaine.
Ok. Oui, c'était un peu déraciné, quoi, c'est ça?
Ouais, un petit peu. Et je sortais aussi, on faisait des fêtes dans ma vingtaine, hein, tu vois, j'étais pas non plus dans la cave de mes parents tous les week-ends. C'est juste que c'était pas appréhendé de la même manière. Ouais.
Pendant ce temps-là, tu continues à jouer aux jeux vidéo, à t'intéresser à la tech, t'es toujours un gamer dans l'âme?
Complètement, oui. Et d'ailleurs, l'un des avantages du fait d'être intermittent du spectacle, c'est que quand t'es pas sur un film ou un tournage qui dure une ou deux semaines, eh ben t'as toute la journée et toute la nuit pour jouer à World of Warcraft. Donc, en 2004-2005, quand arrive World of Warcraft et que je me plonge dedans, j'ai le temps, quand je suis pas en train de bosser, de jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je dis World of Warcraft, je jouais à plein de choses, mais c'est vrai que c'était la période où c'était à fond sur WoW, quoi.
World of Warcraft, qui est l'un des tout premiers jeux multijoueurs MMORPG, là, les fameux MMORPG.
C'est vraiment... on jouait avec ses amis. Il y en avait d'autres, hein, mais auxquels j'avais joué aussi à l'époque. Même au Japon, je jouais sur mon PC, enfin sur les consoles. J'ai jamais arrêté de jouer. Mais là, c'était vraiment une. Je pense que tout le monde a entendu parler de World of Warcraft. C'était un phénomène de société. C'était le plus populaire et de loin. La raison pour laquelle je l'évoque spécifiquement, c'est qu'il a eu une importance énorme dans ma vie de joueur, mais aussi dans ma vie professionnelle, puisque mon premier podcast traitait du jeu World of Warcraft. Et donc, on arrive enfin au sujet qui nous intéresse après 5 minutes. Ça fait le lien, en fait, vraiment avec ma vie professionnelle d'aujourd'hui, quoi.
Dis-nous en plus, en fait. C'est-à-dire que t'as lancé ce podcast qui, si je me trompe pas, s'appelait Azeroth, c'est ça?
Azeroth.fr, ouais.
Ouais.
Azeroth.fr, en fait, j'écoutais des podcasts, moi, anglophone, et en particulier sur World of Warcraft, j'écoutais des podcasts sur la tech et sur World of Warcraft. Et j'ai cherché des podcasts sur World of Warcraft en français, et il n'y en avait pas. Et encore une fois, hein, on parle de 2006, donc évidemment qu'il n'y en avait pas. Mais du coup, je me suis dit, je vais en faire un moi-même. Et comme j'avais ce background un petit peu technophile, comme je m'y connaissais en informatique et en ordinateur, c'était nécessaire, en fait, à l'époque, pour lancer un podcast. Aujourd'hui, il y a des outils qui vont tout faire pour toi, mais à l'époque, fallait mettre les mains dans le cambouis, il fallait coder ton flux RSS toi-même, enfin tout ça. C'est pas très compliqué, mais fallait savoir le faire, fallait héberger les fichiers en FTP, bref. Et donc, je lance des ballots d'essai en envoyant des segments enregistrés à des podcasts que j'écoutais en anglais, d'ailleurs. Et puis, en septembre 2006, je me lance pour le podcast. Et là, c'est vraiment à la fois un succès inattendu, parce qu'il y a eu tout de suite des milliers de personnes qui ont écouté l'émission. Et à l'époque, moi, je me disais, allez, s'il y en a quelques centaines qui écoutent, ça sera incroyable. Et il y a eu vraiment des milliers et des milliers de personnes. Et au-delà de ça, j'ai vraiment eu, pour la première fois, un coup de foudre professionnel. C'est un truc qui n'était pas un métier encore à l'époque, donc on peut pas dire professionnel, mais c'était un petit peu mon coup de foudre professionnel. J'ai eu deux coups de foudre dans ma vie. Quand j'ai rencontré ma femme, en 2009, et quand j'ai rencontré les podcasts en 2006. Donc, c'était vraiment... Je me suis rendu compte... C'est difficile à expliquer. Je parle de coup de foudre à dessein. c'est que j'ai fait ça et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et comme tu l'as compris, et comme je te l'ai dit, je suis passé par beaucoup d'étapes dans ma vie, et c'était juste, c'est ça, si, alors, j'y pensais pas comme, c'est ça que je veux faire comme métier, parce que c'était pas un métier, c'était juste un truc que tu faisais comme jouer au badminton. Enfin bon, il y a des gens qui jouent au badminton professionnellement, mais c'était, et je me suis dit, c'est ça que j'aime. Et donc, j'ai jamais arrêté de faire des podcasts. J'ai fait Azeroth.fr pendant 3 ans. Et il y a eu des milliers, des dizaines de milliers d'auditeurs. Et c'est devenu vraiment... c'est ma première rencontre avec une vie, un minimum public. Alors, c'est sur Internet, hein, mais il y avait des gens qui me connaissaient. On allait dans des conventions de la société qui éditait le logiciel, enfin le jeu de Blizzard. Et il y avait des gens qui venaient me demander mon autographe, tu vois. C'était complètement improbable. Pour un podcast sur un jeu vidéo, enfin, de quel monde parle-t-on, tu vois? Et c'était, mais vraiment au-delà de, c'était pas la question de la popularité qui m'importait, c'était vraiment le fait de, c'est un métier qui est à la frontière entre le journalisme, le jeu d'acteur presque, parce que tu as de la représentation un petit peu dans le podcast, et puis en même temps le fait de donner ton avis. Moi, c'est un truc que j'adore quand les gens m'écoutent parler, comme tu le comprends. Je suis très heureux, je suis dans mon élément. Et puis un aspect technologique, parce que mine de rien, même si j'ai pas aimé être un programmeur, bah j'aime quand même l'informatique, et il y avait un petit peu de ça dans la gestion de ces choses-là, dans la gestion du podcast. Donc c'était au carrefour de tout ce que j'aime faire, sans être un méga expert. Je suis un petit peu un jack of all trades, master of none, mais du coup, je peux faire des trucs comme les podcasts tout seul et tout maîtriser du début à la fin. Et donc j'ai fait ça pendant 3 ans, le podcast Azeroth.fr. Ouais.
Et puis surtout, ça recoupe ta passion d'enfance, qui est le jeu vidéo, parce que l'air de rien, enfin, tu l'as oublié quand même, hein. C'est quand même le point central, j'ai l'impression de. Et puis c'est aussi, je pense, un truc qui t'a permis, toi, de pouvoir découvrir un public, de pouvoir te nouer avec une communauté. On va en reparler un petit peu aujourd'hui, mais c'est les prémices qui t'amènent aujourd'hui à avoir ce public qui te finance et qui t'aide à vivre, en fait.
Complètement.
C'est fou.
Il y a beaucoup de gens qui me connaissent aujourd'hui, qui m'ont découvert après la fin d'Azeroth.fr, mais il y a beaucoup de gens aussi qui me suivent depuis cette époque. Et là, on parle d'une question d'âge. Ça fait 15 ans que j'ai lancé Azeroth.fr. Et il y a peu, j'ai lancé une chaîne de gaming sur YouTube. Et il y a des gens qui... Ça fait quelques mois à peine. Et toutes les semaines, il y a quelqu'un qui m'écrit un commentaire qui me dit « Mais... attends, t'es Patrick d'Azeroth.fr? Mais moi, je t'écoutais quand j'étais au lycée. Aujourd'hui, j'ai une femme, 2 enfants et un chien. Mais c'est fou, tu vois. C'est dingue, quoi. C'est vraiment incroyable. Et du coup, j'ai fait Azeroth.fr pendant 3 ans et j'ai dû arrêter parce qu'il se trouve que la société Blizzard qui développe le jeu m'a engagé parce que au niveau du ciné, ça marchait plus très très fort, et donc j'ai dû trouver un autre boulot et je suis allé travailler pour Blizzard aux relations presse en Europe pour la boîte. Et j'ai continué, par contre, j'ai dû arrêter Azeroth.fr et arrêter les podcasts de jeux vidéo. Je pouvais pas en faire parce que, bien sûr, conflit d'intérêts. Mais par contre, je parlais de tech avec mon podcast. Le rendez-vous tech que j'avais lancé au début de cette année-là, au début de 2009.
Oui, donc
et donc j'ai continué les podcasts.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tu switches à un moment donné et tu te dis bah ok, j'ai un vrai travail dans la vraie vie, donc il faut que j'arrête Azeroth, mais t'es allé chercher ton autre passion, quoi, la tech.
Bah en fait, j'avais lancé. En fait, quand je te dis je suis tombé amoureux des podcasts, j'en ai lancé plusieurs au bout d'un certain temps. J'avais en 2009 peut-être 3-4 podcasts différents que je faisais tourner, et j'ai continué à les faire tourner pendant les 5 années où j'étais chez Blizzard, et avec quelques interruptions parce qu'à un moment ça faisait trop. Mais les gens se rendent pas forcément compte, mais faire un podcast, c'est un vrai vrai boulot, c'est énormément de travail, et moi j'en avais plusieurs. Et c'était un boulot. La manière dont j'y pense aujourd'hui, c'est que j'avais un mi-temps en plus de mon plein temps. Et vraiment, c'était un boulot que pour lequel j'étais pas payé, mais j'avais un mi-temps en plus du boulot que je faisais et pour lequel j'étais payé. Au bout de quelques années, ça a commencé à devenir trop et j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai dû arrêter certains des podcasts que je faisais. Mais j'ai jamais complètement arrêté et il y en avait toujours que je continue le Rendez-vous Tech, je l'ai jamais arrêté depuis 2009. Et dès que j'ai quitté Blizzard en 2014, j'ai lancé un podcast de jeux vidéo qui s'appelle Le Rendez-vous Jeu, qui correspond bien au Rendez-vous Tech, qui sont devenus les deux piliers de mon activité podcastique. Ouais.
Et tu te lances donc à plein temps à l'époque ouais. sur le podcast.
Alors en 2014, j'ai l'impression que c'était hier, mais oui, en 2014, en fait fin 2013, je découvre un site qui s'appelle Patreon, qui existe depuis quelques mois et que certains de mes amis anglophones utilisent depuis peu pour financer leur podcast, ou sont en train de penser à utiliser pour financer leur podcast. C'est un site de financement participatif, hein, vous connaissez hein, Patreon, et je me dis, bon là il y a un truc, il faut tester. J'avais testé un petit peu les dons par PayPal sur Azeroth.fr, mais ça avait jamais donné quelque chose de très sérieux. C'était quelques dizaines, une centaine d'euros par mois maximum. Et c'était pas quelque chose qui permettait de faire quoi que ce soit. J'avais du sponsoring sur Azeroth.fr. C'était des gens qui écoutaient, qui avaient un petit business, qui disaient, oh, tu peux parler, je te file 100 euros, tu vois. C'était là non plus rien qui, c'était sympa, mais c'était pas quelque chose qui permettait de faire vivre qui que ce soit. Et Patreon, je me dis, il y a peut-être quelque chose. Et comme pour beaucoup de choses que je faisais, je me dis, il faut que je sois le premier là-dessus. En France, en tout cas. Et du coup, je suis encore chez Blizzard, mais je commence à travailler, à lancer un Patreon début 2014 pour voir ce que ça donnerait. Et je mets des paliers à 200 et 500 euros pour le lancement, pour payer le matériel et... pour payer un petit peu le travail, pour financer le truc. Je sais plus comment je l'avais formulé. Payer les logiciels et payer le matériel. C'est symbolique parce que 200 euros et 500 euros par mois, voilà. Ou c'était par épisode peut-être déjà à l'époque. Et je le lance, je m'en souviens très très bien, j'étais chez Blizzard, avant de partir vers 6 heures, j'appuie sur le bouton publication du Patreon et je quitte le boulot. Et je tweete un truc, et voilà. Et 10 minutes plus tard, j'arrive à la gare, et je check le Patreon, et je vois une ou deux réactions, tu vois. Et je me dis, bon, ben, ok, ça n'a pas marché, bon, ben, c'est pas grave. Et quand j'arrive chez moi, j'avais là encore une heure et demie de transport, quand j'arrive chez moi, je recheck mon mail, et je vois, je ne sais pas, 10, 15, 20, 30 notifications de personnes qui se sont abonnées. Et je me dis, mais que se passe-t-il là? Il y a un truc bizarre. Et le soir même, j'enregistrais un podcast, un rendez-vous tech. Et pendant que j'enregistrais le podcast, il y avait le son de notification des mails qui arrivaient toutes les 2 minutes. C'était incroyable. C'était la magie de la communauté et de l'Internet. Et dans la soirée, on a atteint les 200 euros. Et avant la fin de la semaine, on a atteint les 500 euros. Et donc, la communauté a répondu présent, mais sans doute, les gens étaient habitués à l'idée du financement participatif parce que Kickstarter existait depuis quelques années et donc, la mécanique était plus si étrange. Et donc, ils ont tout à fait répondu présent et moi, j'étais hyper reconnaissant, comme je le suis encore, mais surtout, je me suis dit, bon, ok, il y a peut-être un truc à faire là. Si on est déjà à 500 euros, c'était par épisode, j'en faisais 2 par mois à l'époque. Et bien sûr, les gens donnent pas tous pour tous les épisodes. Mais en gros, je me disais, si je peux avoir un petit peu de financement par Patreon, si je lance une chaîne YouTube, que je peux avoir un petit peu de financement par YouTube. À l'époque, c'était 2014, c'était pas aussi évident que c'était des succès qu'aujourd'hui, même s'il y avait des gens qui commençaient à être très populaires. Si je fais des trucs à droite à gauche, peut-être que difficilement, je peux faire tenir les deux bouts, réunir les deux bouts. Et en vivre. Et en plus, commencer à avoir fait le tour de mon boulot chez Blizzard, et j'en ai parlé avec ma femme, qui du coup, on n'en a pas parlé, mais la rencontre la plus importante de ma vie, c'était 2009, celle qui est devenue ma femme, qui est donc arrivé à la fin de cette période de coolitude, tu vois, où j'étais le gars populaire, le français populaire avec les expats. Et surtout, c'était une période où j'avais eu quelques histoires sérieuses qui n'avaient pas marché, où je me disais, bon, j'en ai marre de ces conneries, maintenant je suis moi. J'aime les jeux vidéo, je bosse pour Blizzard, c'était depuis quelques mois je bossais chez Blizzard, et voilà, et c'est moi. Et si les nanas que je rencontre, ça leur plaît pas, bah pff, tant pis. Et donc j'ai été comme ça avec ma femme, et bah heureusement ça lui a plu. En fait, on s'est, tu vois, c'est vraiment coup de foudre. On s'est immédiatement, mais immédiatement, hein, on s'est, c'est pas qu'on s'est plu, c'est qu'on a su qu'on était fait l'un pour l'autre. J'exagère à peine en disant au bout de quelques jours. Vraiment, au bout de un mois, je me suis dit, bon, bah, ok, je vais l'épouser, quoi. Et bon, ça s'est concrétisé, et maintenant, on attend notre deuxième enfant. Mais, donc, je parle avec ma femme, à ce moment, avec le Patreon qui commence, qui fonctionne bien pour ce ballon d'essai en 2014. Et elle me dit, bon, bah, oui, il faut que tu essayes. Il faut que tu quittes ton travail qui est sûr et qui est un CDI et où tout va bien, et que tu te lances dans la création de contenu sur Internet, qui est un métier qui n'existe pas, et il faut que tu le fasses. Allez, vas-y, lance-toi. Et donc, bah, je l'ai fait. Et en septembre, je donne ma démission chez Blizzard et j'annonce à la communauté, j'ai fait les choses dans le mauvais ordre, j'ai démissionné avant de lancer le Patreon pour en vivre. J'annonce à ma communauté que je vais essayer d'en vivre à temps plein.
Et là encore, je te coupe, mais t'es sûr que t'as fait les choses dans le mauvais ordre? Parce qu'en vrai, pour moi, c'est plutôt une bonne façon de faire.
Bah, disons que si j'avais lancé le Patreon et qu'il était financé avant de donner ma démission, j'aurais eu un petit peu moins d'angoisse, tu vois, parce que si ça avait pas marché pour le Patreon, et bah, j'avais déjà donné ma démission, donc j'aurais été vraiment
Je vois ça aussi comme une forme de saut dans le vide, tu vois.
Ah bah bien sûr, bien évidemment, et oui, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Et c'est comme ça aussi que les gens l'ont pris, et une bonne partie des gens qui m'ont soutenu à ce moment-là, je pense, l'ont fait pour soutenir cette démarche. Ce que je n'imaginais pas, mais beaucoup de gens m'en ont témoigné de cette manière. Ils m'ont dit, écoute, c'est un truc couillu que tu fais, ça fait longtemps que je te suis, tu fais un travail de super qualité. Ça faisait 5 ans que je faisais le Rendez-vous Tech à ce moment, hein, donc c'est vraiment une émission sur laquelle ils pouvaient compter. Malgré mon travail, il y avait des fois j'étais en déplacement pour des salons où je bossais comme un fou, un petit peu comme un rythme d'intermittent sur un film, et ben l'émission elle sortait quand même, tu vois, et donc les gens me faisaient confiance. Et
ouais, ça veut dire aussi que t'as pendant 5 ans t'as bossé sans jamais gagner un rond sur ce podcast, juste par passion.
Ouais,
c'est pour donner un peu de la perspective aux gens, quoi, tu vois. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain, quoi.
C'est sûr. Et sur cette émission, et si on parle des podcasts en général, il y avait Azeroth.fr avant, une certaine partie de la population avait transféré de l'un à l'autre aussi, tu vois. Donc, et donc, j'ai mis 2 paliers, un à 1500 et un à 2000 €. Enfin, c'était en dollars à l'époque, hein, donc c'était pas tout à fait la même chose que les euros. Mais 1500 et 2000 $. Et là encore, assez vite, avant la fin de mon préavis chez Blizzard, la communauté a répondu présent et a rempli l'objectif du Patreon à 2000 $. Et donc, je me suis dit, c'est bon. Donc, je peux vivre du podcast. Et je suis devenu, je pense, en France en tout cas, le premier podcasteur professionnel du pays. Et c'était entièrement financé par la communauté. Et c'était vraiment... On a ensemble inventé un métier qui n'existait pas. Et d'ailleurs, il n'existait pas. Et l'administration, qu'elle soit fiscale ou... tu vois, c'était intéressant, les discussions qu'on a eues. C'était pas très difficile, mais c'est juste... mon premier comptable, je me suis lancé en intermittent du... Pardon, pas en intermittent, mais
En société ?
Non,
en auto-entrepreneur, c'est ça ?
Merci beaucoup. Okay. Voilà, c'est ça. J'étais auto-entrepreneur au début. Et mon premier comptable, ma comptable, n'a juste rien compris à ce que je faisais. Donc, j'ai dû changer de comptable au bout de quelques mois. Mais ça s'est très, très mal passé. J'ai trouvé un comptable qui était d'ailleurs un auditeur, qui est formidable, que j'adore. Et donc, c'était vraiment un truc qu'on a inventé, qui n'existait pas. Et donc, je suis devenu effectivement podcasteur et j'ai tout de suite lancé le rendez-vous jeu pour parler de jeux vidéo. Et j'ai relancé un podcast que j'avais interrompu 2 ans avant, qui s'appelait The Phileas Club, qui était un podcast anglophone, qui est pour le coup mon émission qui n'a aucun rapport avec la tech ou le jeu vidéo, qui est une émission où je reçois chaque mois, qui existe encore, où je reçois chaque mois des invités de différents pays et où on parle de sujets d'actualité, où chacun donne la vision qu'il ou elle a sur l'actualité en fonction de sa culture, de son background, de ses médias. Et c'était une émission, je pense qu'on voit très rapidement l'origine dans mon histoire de cette émission. Mais c'est une émission que j'aime beaucoup, qui est devenue beaucoup plus difficile ces dernières années. Parce qu'au début, quand je l'ai lancée, elle a aussi été lancée en 2009, hein, donc elle date. Mais quand je l'ai lancée, c'est juste « Oh, mais chez toi, qu'est-ce qui se passe quand on parle de tel ou tel truc ?» Et maintenant, bon, évidemment, c'est beaucoup plus polarisé et beaucoup plus difficile, mais...
Oui, donc j'ai lancé. Pardon, mais tu sens vraiment la polarisation de la société quelque part à travers ton podcast et tes invités, quoi.
Bah, disons que je le sens parce que, en particulier, je vais chercher des gens avec lesquels je suis pas d'accord. Je vais vraiment chercher dans tous les domaines. Hein, je vais chercher des gens qui soutiennent Donald Trump, des gens qui étaient pour le Brexit, des gens qui sont... J'ai fait un épisode spécial passionnant avec un communiste français, tu vois, mais pas... Je parle pas d'une personne qui serait socialiste et qui est mécontente de la direction que prend la gauche en France, vraiment d'un communiste. Tu vois, tout ce genre de choses. Et donc, oui, forcément, on parle de ces sujets, en particulier avec les États-Unis ou l'Angleterre. Et quand on essaye de comprendre les motivations des gens, on ne peut que se rendre compte de la... En fait, ce dont on se rend compte, c'est à quel point la plupart des gens qui sont dans ces mouvances, avec lesquels on pense n'avoir rien en commun, sont en fait des gens normaux avec lesquels on a beaucoup de choses en commun et quelques éléments qui sont extrêmement opposés. Alors, ne me faisons pas dire ce que je n'ai pas dit, je pense qu'il y a des gens avec lesquels je ne veux rien avoir en commun et qui sont très certainement à l'opposé de ce que j'estime acceptable. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont simplement d'un avis différent sur des points spécifiques. J'ai eu des discussions avec des gens qui ont voté pour Donald Trump ou des gens qui ont voté pour le Brexit, qui étaient très éclairantes pour moi. Bref, c'est pas le sujet de cette discussion.
Non, mais c'est intéressant aussi parce que tu fais un truc qui est très rare en ce moment, c'est que tu vas vers les gens pour les écouter. Et pour faire en sorte que, j'espère que tes invités t'écoutent aussi. Et je crois que c'est un truc qu'on a un peu tendance à oublier, tu vois, à s'écouter et à s'entendre aussi, avant de juste s'embrouiller sur les trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, quoi.
Bah, tu sais, j'ai eu justement des discussions. L'un des sujets qui revient souvent quand on parle avec des Américains, c'est la question, quand on parle des questions clivantes, c'est la question de la santé et du healthcare et de la sécurité sociale en France, en fait, et du rôle de l'État dans ces choses-là. Et quand je leur explique qu'il est important d'avoir des filets de sécurité sociaux comme la sécurité sociale ou l'éducation ou ce genre de choses, eh ben, il y a une partie de la population américaine qui ne veut juste pas accepter ça. Et l'un des voteurs de Donald Trump avec lequel j'ai beaucoup discuté, qui est un chrétien radical anti-avortement, enfin c'est son one issue vote, tu vois, qui est vraiment convaincu, avec qui on parle de plein de choses et que dont je me rends compte, comme je te disais, que à part sur certains points, on peut vraiment discuter. Il m'a expliqué qu'au bout d'un moment, à la fois sur l'environnement, sur la question du réchauffement climatique et sur la question de la santé et de la sécurité sociale, eh ben son point de vue avait beaucoup évolué parce que on avait eu des discussions saines, rationnelles, où je l'avais pas agressé, où il m'avait pas agressé. Et donc, je crois beaucoup. Je pense qu'il y a des limites à cette question de la discussion. Mais j'avais eu un échange sur Twitter avec une journaliste. Je m'en souviens à l'époque de l'élection de Donald Trump. Et c'était un échange très, très court, mais qui était symbolique de ma démarche et de ce que je pense est un problème dans la manière dont on approche ces sujets. Elle avait publié très fièrement une série d'articles où elle disait « Nous allons parler à l'Amérique, à cette Amérique qui est contre Donald Trump », en expliquant un petit peu à quel point il y avait des gens qui étaient de notre avis, en fait, qui trouvaient que Donald Trump n'était pas le président qu'il voulait. Et alors, il va sans dire que je suis content qu'il soit plus président et que son administration est déménagée et que... Donc ça va sans dire. Mais moi, ça m'avait frustré, cette idée, parce que je lui avais demandé « Ah oui, c'est super, et du coup, est-ce qu'on va avoir aussi une série sur les gens qui sont contents que Donald Trump soit président ?» Pas pour dire qu'ils ont raison, mais pour comprendre. Parce que surtout à cette époque, entre le Brexit et Donald Trump, on a... Enfin, le public a découvert avec stupéfaction qu'une immense partie de la population était d'accord avec ses idées et ses propos. Et il faut comprendre pour savoir pourquoi. Alors, on pourrait parler d'autres mouvements sociaux en Europe, hein. Il y en aurait beaucoup qu'on pourrait évoquer. Mais il faut comprendre ces choses-là. Ça exprime quelque chose. Et elle m'avait dit « Ah ben non, c'est pas prévu ». Et ça m'avait... Alors, j'ai pas répondu parce que je suis pas là pour lancer des clashs, mais ça m'avait énormément frustré. C'est pas ça qui nous intéresse. On connaît les Américains qui sont pas d'accord avec Donald Trump. On sait qui ils sont. On sait pourquoi ils sont pas d'accord. Moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi il y a des gens qui ont mis en place ce clown improbable et pourquoi ils pensent qu'il faudrait qu'il soit à la tête du pays. Donc, enfin bref. Mais donc ça, et tu sais, c'est un truc qui motive un petit peu tout ce que je fais. Et encore une fois, j'insiste, il y a des limites et il y a des limites à tout. Et on en parle beaucoup dans toutes mes émissions et j'émets des avis qui vont dans ce sens. Mais même quand on parle de sujets sociétaux très compliqués dans le rendez-vous tech, moi j'ai lancé le rendez-vous tech pour parler d'iPhone et de processeurs, tu vois. C'était la révolution des smartphones, c'était super marrant à l'époque. Et aujourd'hui, on se retrouve à parler de est-ce que les réseaux sociaux contrôlent la liberté d'expression dans la société, tu vois. Mais donc, il y a des sujets vraiment, est-ce que Uber peut ne pas payer la retraite de ses employés, est-ce que ce sont des employés? Enfin, c'est des sujets qui sont vraiment complexes, juridiques, légaux, philosophiques, sociétaux, politiques. Enfin bon. Et souvent, j'essaye de ne pas m'arrêter à la manière dont moi j'envisage les choses, mais j'essaye de voir un point de vue qui est un petit peu différent. Et pas pour dire que ce point de vue est aussi valable que l'autre, mais pour l'explorer et pour essayer de comprendre s'il y a quelque chose là-dedans quelque chose à en tirer, en fait. Et c'est vraiment une philosophie qui sous-tend tout ce que je fais. Il y a deux choses. L'explication, je veux vraiment expliquer les choses pour que les gens qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas ces domaines, que ce soit pour la tech, le jeu vidéo, la politique, tout, les gens qui ne comprennent pas ces domaines puissent comprendre. Donc j'ai c'est marrant parce qu'on retrouve mon passé de prof de français là-dedans un petit peu. Et je suis désolé Fabrice, mais je parle énormément. Quand j'étais prof au Japon, le principe de l'école, c'était qu'on ne parlait jamais japonais. Jamais. Même avec des personnes qui n'avaient jamais parlé français de leur vie. Et donc, il y avait des méthodes pour leur apprendre le français en ne parlant que français. Et c'était une chose avec laquelle j'avais une certaine affinité, mais ça m'a également développé cette expertise. Et je m'en sers, je pense, aujourd'hui indirectement pour expliquer des sujets complexes de manière simple. Et ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi, pour la tech, pour le jeu vidéo, pour le reste. Et l'autre principe, c'est que je veux m'assurer qu'il n'y a pas, dans un autre point de vue, quelque chose d'intéressant qui pourrait agrémenter, alimenter ma réflexion. Donc, voilà, ces deux principes importants.
Ne t'excuse pas de parler.
Tu vois, quand je te dis que j'aime bien m'entendre parler, je te mens pas.
Non, mais c'est très intéressant. Et c'est pour ça que je voulais aussi te faire parler sur le Phileas Club, c'est que j'écoute tes podcasts moi depuis quelques temps et c'est vrai que je trouve que tu as une approche pédagogique, comme tu l'expliques, qui est très intéressante et que tu as vraiment cette volonté-là d'expliquer un petit peu et de décrypter, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est du décryptage. Donc finalement, tu as aussi un rôle de média, en fait, par là, tu vois, tu as une ligne édito qui est claire, qui est, tu t'adresses pas juste à un public de passionnés. Et en fait, je pense que même si t'es passionné, tu t'y retrouves, et si tu t'y connais pas, tu peux quand même apprendre plein de choses, quoi. Donc, en ça, je trouve que c'est hyper intéressant.
C'est complètement le but, hein. L'idée, c'est de donner quelque chose aux gens qui ne connaissent pas les sujets, et puis ensuite, avec des analyses, une fois qu'on a établi les bases, avec des analyses, j'espère, intéressantes, d'alimenter les réflexions des gens qui connaissent ces sujets-là. Et c'est un truc, là, on revient à la question du podcast par rapport à d'autres médias, c'est un truc qu'on peut faire qu'en podcast, à la limite en presse, mais même, tu sais, si j'en parlais souvent, pourquoi je fais du podcast, il y a des gens qui me disent « Ah, est-ce que tu voudrais faire de la radio, de la télé ?» Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Et dans une émission, dans un sujet tech à la télé ou à la radio, on va te donner 2 minutes, 1 minute et demie. Comment veux-tu expliquer les complexités de la problématique, pour reprendre un truc qui est d'actualité, de la problématique de la déplateformisation du président américain, en 2 minutes? C'est impossible. Il y a des dynamiques tellement complexes, il y a des problématiques du pour, du contre, de la faisabilité, des implications, c'est impossible. Et donc, en podcast, on peut se consacrer pendant une demi-heure, une heure, chaque semaine, à des sujets de ce type, que ça soit des problématiques sociétales importantes ou des détails des nouveautés du dernier smartphone technique qui vont faire que ça va faire des choses intéressantes, ou les mises à jour du patch 12.3 de World of Warcraft, qui va changer la manière dont les guerriers utilisent frappe mortelle, tu vois. C'est que en podcast qu'on peut faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a des podcasts sur tellement de sujets, des sujets tellement niches. Le podcast est l'équivalent des blogs de l'époque. Quand on venait découvrir Internet, on s'est rendu compte que c'était tellement vaste qu'il y aurait toujours quelqu'un, et tellement facile d'accès, qu'il y aurait toujours quelqu'un qui parlait d'un sujet qui vous intéresse. Si vous, ce qui vous intéresse, c'est la collecte des papillons, des variétés asiatiques des papillons de nuit, ben vous allez avoir trouvé un site qui parle de ça spécifiquement. Les podcasts, c'est pareil. On pourrait parler de YouTube aussi, mais c'est très différent de la télé ou de la radio. On a une facilité d'accès, des coûts de production qui sont tellement faibles dans le podcast, et en particulier quand on gère ça tout seul, comme c'est mon cas, ou presque tout seul, que on peut faire absolument ce qu'on veut dans ces... J'écoutais ce matin un podcast qui traite exclusivement des nouveautés du Marvel Cinematic Universe, qui s'appelle Les Clairvoyants, que je salue au passage. Enfin, je veux dire, tu pourrais pas avoir ça à la radio, quoi. On va dire, ça serait compliqué.
Je vois. Aujourd'hui, t'es indépendant, donc, toujours? Et donc ça fait donc maintenant 6 ans, que ça, 7 ans maintenant que ça dure. T'as aujourd'hui plusieurs centaines de Patreon, c'est comme ça qu'on les appelle, non?
Des patrons. Ouais, même un peu plus les patrons, ouais. Mm-hmm.
Qui te permettent de financer tes projets. Et comme on le disait au tout début, t'as créé ta petite structure, était au fin fond de la Finlande, à envoyer et à enregistrer tes émissions depuis le fin fond de ta forêt, quoi. C'est comme fou. Ouais.
Bah oui, c'est on les appelle les patriotes, en fait. C'est un terme qui a été trouvé par l'un des membres de la communauté, dont j'ai d'ailleurs, je sais plus de qui il s'agissait, mais maintenant c'est les patriotes. Je trouve ça très très bien. Et oui, bah écoute, en fait, en 2016, on a déménagé en Finlande avec ma femme, parce que le pays lui manquait un petit peu, et moi je me suis dit on va tester. Pendant notre transition, quand on n'avait pas d'appartement, on a fait un petit détour par le Japon, on est allé habiter 3 mois au Japon, parce qu'on pouvait. Elle était entre 2 boulots, et moi, je pouvais faire ce boulot de n'importe où, alors tu vois, c'est vraiment, vraiment de n'importe où. Et on était à Helsinki pendant 2 ans, et puis ensuite, suite à différentes histoires sur lesquelles je vais passer, on est venu habiter dans la très vieille maison familiale qui avait été délaissée pendant très longtemps, et qui est effectivement au milieu de la forêt. Et maintenant, oui, je peux faire mon métier d'ici, parce qu'il y a la fibre, qui était une merveille qui me permet de faire ça. Et je gère tout mon boulot avec ma société, qui est maintenant une société depuis quelques années, entièrement en ligne. Et tout ce que je fais se fait par Internet. C'est-à-dire que les enregistrements, la publication, les contacts, la promotion, la comptabilité, oui, tout entièrement par Internet. Je revenais en France de temps en temps quand on pouvait, avec le petit et ma femme, mais maintenant c'est plus compliqué. Et oui, je suis entièrement à la maison.
Bon, alors, si vous voulez voir Patrick qui fait des vidéos au bord de son lac, ça se passe sur ton compte Insta. Hein,
exactement.
Où t'as, bah, notamment, tu fais un truc avec Patreon, je pense que c'est ça qui est sponsor par Patreon, ouais. Où tu expliques un petit peu ton quotidien de créateur.
Exactement, ouais.
Et tu te filmes au bord de ton lac, quoi.
ouais, bah parfois parfois dans la maison, parfois à l'extérieur quand il y a de la neige, je montre un petit peu comment c'est. C'est un environnement qui est vraiment incroyable parce que en fait, j'ai découvert ce qu'étaient les saisons en arrivant en Finlande. En France et en particulier à Paris, on croit qu'on sait ce que c'est les saisons, hein. Mais moi, je suis un vrai Parigot. Même si j'ai vécu à d'autres endroits, je suis un Parisien, tête de veau, tête de chien, tout ce que tu veux. Et on croit qu'on sait ce que c'est les saisons. Mais en fait, pas du tout. À Paris, comme le dit ma femme, il y a deux saisons. Il y a l'été et pas l'été. C'est ça, les deux saisons qu'il y a à Paris. En Finlande, là, t'arrives et tu comprends ce que c'est vraiment l'automne, ce que c'est le printemps, la différence entre le vert des arbres au début du printemps et au milieu de l'été, quand la neige est vraiment tombée en hiver et qu'il fait moins 10, moins 20. Et c'est un environnement de folie que je partage effectivement beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je suis Note Patrick un petit peu partout sur les réseaux sociaux, et notamment avec ce programme d'ambassadeur, en fait, pour lequel est venu me chercher Patreon. Et parce qu'ils se sont lancés en fait en France, en français et en euros il y a quelques mois, et donc bah voilà, je leur fais un petit peu de pub avec les vidéos que je publie sur Twitter et Instagram.
Ok. C'est quoi les projets pour ta petite entreprise? Est-ce que t'as vocation, t'as des envies de créer d'autres programmes, de pouvoir peut-être amener d'autres personnes, parce que j'imagine que bah là déjà ça doit te prendre un gros plein temps, hein. Est-ce que t'as des vocations de t'associer, de peut-être faire grossir ce, parce que c'est le moment pour les podcasts là, tu vois?
Ouais, alors en fait les choses ont jamais arrêté d'évoluer et j'ai toujours eu une approche. Comment dire? Moi, je me considère comme un artisan du podcast. Et ce terme est un terme que j'ai vraiment recherché parce que il y a beaucoup de podcasteurs qui font les choses à moitié en amateur. Pas forcément en amateur, mais même les gens qui essayent de faire de l'argent, il y a beaucoup de podcasteurs, en particulier en France, qui vont dire, bon, on a un Patreon, mais si ça vous dérange pas, si vous voulez vous donner un peu d'argent, et puis nous, on fait ça par passion, on va payer les chips avec, ou tu vois, ou ouais, ça serait super, et qui ont honte d'en parler. Ou moi, j'ai été très clair dès le début, je veux en faire mon métier. C'est un truc que je fais sérieusement et c'est un truc qui dure. Il y a beaucoup, beaucoup de podcasts. La plupart, je dirais, dépassent pas les 2 ans ou 3 ans. Il y en a certains qui durent un peu plus, mais ils sont très, très rares parce que c'est dur. C'est un vrai travail. Et quand tu fais un vrai travail, eh ben, même si c'est un truc que t'adores, à un moment, il faut que tu sois rémunéré. Et je sais que j'aurais pu continuer jusqu'en 2018, je pense, mes podcasts. Quand mon fils est né, je suis pas sûr que j'aurais pu continuer si c'était pas mon métier. En tout cas, pas de cette manière. Mais j'ai toujours continué à faire évoluer les choses et je me suis rendu compte l'année dernière, ou il y a 2 ans, que j'étais trop dépendant de Patreon uniquement. Pour des questions, parce que moi, comme je l'expliquais à mes patriotes, qui continuent à me soutenir et que j'adore, je compte faire des podcasts pendant très très longtemps. Pendant 5, 10 ans, 15 ans, pourquoi pas, c'est mon amour. Et pour ça, il faut être stable. Et donc, j'ai décidé, en plus du Patreon, et j'ai 2 ou 3 Patreons, j'ai décidé d'ajouter de la pub dans mes émissions. Et ça, c'était une décision qui était hyper difficile parce que pendant longtemps, je voulais pas le faire. Et j'ai finalement décidé de le faire parce que je me suis rendu compte qu'il y a eu quelques soucis avec Patreon qui se sont bien réglés, mais il y a eu à un moment des petits accros. Et puis, je me suis rendu compte, s'il y a un truc qui arrive à Patreon, moi, je suis à poil derrière. J'ai rien. J'ai rien du tout. Donc j'ai mis de la pub dans le but de complémenter la chose pour me permettre au moins de respirer, d'avoir une demi-bouche hors de l'eau s'il y a un problème. Je pense pas qu'il y aura de problème avec Patreon, hein, mais il faut avoir cette diversification des entrées, des sources de revenus. Et en début d'année dernière, en fin d'année dernière, à l'automne, j'ai rendu le podcast Le Rendez-vous Jeu hebdomadaire. Il était jusque-là seulement bimensuel. J'ai rendu hebdomadaire. J'ai vraiment lancé un Patreon sérieux dessus. Et puis, je me suis aussi lancé sur YouTube parce que c'était une envie que j'avais d'une part d'essayer quelque chose de différent. C'est beaucoup plus ambitieux, la vidéo. Mais j'avais envie de faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, les podcasts, on n'a jamais complètement maîtrisé la chose, mais je maîtrise suffisamment pour pouvoir le faire un petit peu plus facilement qu'avant. Et je voulais essayer quelque chose de différent. Et je me suis dit également, je vais lancer YouTube maintenant, je vais le faire sérieusement, régulièrement, comme j'ai toujours fait les podcasts. Et peut-être que dans 2-3 ans, ça donnera quelque chose qui pourra être un autre élément de mes sources de revenus ou de mon activité, ou avoir un petit peu pas tous les œufs dans le même panier. Et en plus, j'ai envie de le faire et je parle de jeux vidéo sur YouTube et ça me plaît beaucoup. Et tout ça, ça a été rendu possible grâce au fait que j'ai pu engager une freelance il y a un petit peu moins d'un an, grâce à la publicité que j'avais mis il y a un an, qui avait augmenté les revenus. Et donc, j'ai engagé Fanny, qui travaille avec moi et qui travaille une dizaine d'heures par semaine avec moi pour me décharger de certaines tâches, ce qui me permet de me consacrer à d'autres. Et j'espère, quand le deuxième enfant va arriver, de ne pas complètement interrompre tout ce que je fais et de gérer les choses pendant que je serai en congé paternité. Mais oui, donc j'ai Fanny qui m'aide. Peut-être que je lui demanderai de m'aider un petit peu plus à terme, quand on va voir en fonction du budget. Là, on vient de faire le bilan avec le comptable. Ça se passe pas trop mal, donc peut-être que je pourrais avoir un petit peu plus de budget pour Fanny l'année prochaine, okay. En cours d'année. Mais il y a vraiment cette idée que je suis un artisan, c'est-à-dire que je fais un métier moi-même, avec mes mains, je fais tout moi-même comme je le veux, mais en même temps, c'est mon métier et c'est un travail et il faut faire de l'argent pour continuer à en vivre. Et cette idée d'artisanat correspond vachement à la manière dont j'envisage les choses, je trouve.
Ah, c'est intéressant. Hein. Et c'est marrant parce que, tu vois, j'ai interviewé Laurent et Benoît, qui sont les deux fondateurs de Topito. Donc, aujourd'hui, Topito, qui est une grosse boîte, hein, ils sont 30. Et ils ont, eux aussi, mais même au sein d'une grosse structure comme ça, ils ont aussi cette idée d'être des artisans, en fait, tu vois. Donc, et c'est intéressant de voir à quel point, à des échelles différentes, vous avez la même idée de votre métier, quoi.
C'est vraiment difficile de se retrouver, et je pense particulièrement en France, hein, parce que on a un rapport à l'argent qui, malgré tout, reste étrange, qui est un petit peu coupable souvent, alors que en fait la France est l'un des pays où on a le plus de PME, de petites entreprises, et on inclut là-dedans tous les artisans, les petites enseignes, tous les boulangers, toutes les petites boutiques, et c'est des entrepreneurs. Il y a un nombre d'entrepreneurs en France. Et pourtant, en particulier, je le ressens dans le milieu des podcasts, moins maintenant, parce que bon, les gens ont quand même compris qu'à un moment, si tu veux durer, il faut quand même en vivre. Mais il y a quelques années, quand je me suis lancé, c'était très tabou et les gens n'osaient pas le dire. Et donc, moi, je parle du Patreon tout le temps. J'en parle. Alors, si on est patriote, on a un épisode spécial où il n'y a pas les pubs et pas les interruptions. On parle de Patreon parce qu'on l'est déjà, mais j'en parle souvent parce que c'est important de rappeler aux gens, parce que les gens n'ont pas d'eux-mêmes l'envie naturelle de soutenir les gens. Et ce rapport à l'argent est compliqué, en particulier dans le milieu du podcast, où on ne pouvait vivre que de sa passion pendant très longtemps. Et ça s'est un petit peu imprégné dans ce milieu, qui est super, hein. Moi, j'adore tout le monde dans le milieu du podcast, je suis pote avec tout le monde. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui, et ça se fait de plus en plus maintenant, mais il y a quelques années, ce que je disais, c'est qu'il y a plein de gens qui pourraient en vivre, mais parce qu'ils n'ont pas cette approche, j'y vais à fond, c'est mon métier, et oui, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je trouve des moyens de faire de l'argent, eh ben, ils peuvent pas en vivre. Et je trouvais ça dommage. Maintenant, c'est un peu en train de changer.
Écoute, merci Patrick. Je crois qu'on a fait le tour. Je vais.
On a surtout parlé de moi plus que du boulot. Je suis désolé, mais.
Non, parce que pour moi vraiment c'est de raconter ton histoire de succès, quoi. Tu vois, donc vraiment et ton histoire elle est surtout comme tu le dis basée sur toi, ta personnalité et puis ton parcours qui est effectivement sinueux mais qui.
c'est marrant parce qu'au final on retrouve. Je vais dire pour conclure, on retrouve toute mon histoire dans ce que je fais aujourd'hui. Et Steve Jobs disait un truc intéressant. Si vous ne l'avez pas vu, son discours de je ne sais plus comment il s'appelle, de Stanford, qui est formidable. Il disait essayez des choses parce que on ne peut pas savoir avant ce qui va vous servir. Et quand vous regardez en arrière, vous vous rendez compte de tout ce que vous utilisez aujourd'hui et tout ce que vous avez découvert. Et c'est complètement vrai pour moi, jusqu'au point où mon père était un entrepreneur qui n'a jamais pu accepter les métiers qu'on lui proposait. Il voulait être un entrepreneur. Il n'a pas toujours réussi, malheureusement. Mais c'est un truc qui lui collait à la peau. Et je me rends compte que moi, j'ai jamais été heureux dans mes métiers ou dans mes activités jusqu'à ce que je trouve le podcast et jusqu'à ce que je sois mon moi-même complètement asocial qui vit au milieu de la forêt en Finlande et qui parle à personne, alors que je fais un métier qui est très public, tu vois. Et donc, tous ces éléments, même le Japon, les voyages, la tech, le jeu vidéo, tout ça, ça se retrouve dans ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ce que je produis aujourd'hui, c'est vraiment un résultat, un mélange de tout ce que j'ai été pendant 30 ou 40 ans, quoi.
Je vous mettrai tous les liens dans les notes, hein, et croyez-moi, il y en a des liens.
Le plus simple, c'est notepatrick.com. Allez sur notepatrick.com et vous trouvez tout ce que je fais, que ce soit les réseaux sociaux ou les podcasts.
Et puis, il y a ton vieux blog aussi où tu parles de ton histoire sur Patrick Béja. Enfin,
oui, tout à fait, ouais.
Ton blog à l'ancienne.
Il y a des choses, il y a des pépites là-dedans également.
Un grand merci à toi, Patrick, c'était super.
Merci Fabrice, c'était hyper agréable de pouvoir juste parler de moi-même. Merci beaucoup de m'en avoir donné l'opportunité.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.